session de philosophie par le père Philippe à Saint-Jodard le 11 juillet 1990.
Première petite question posée à propos du péché originel. Je vous avais dit, la révélation nous donnait tout de suite un regard sur la noblesse du corps, puisque nous voyons que Dieu façonne le corps de l'homme selon le langage symbolique de la Genèse, comme un potier. Si on essaie de comprendre ce que ça veut dire, c'est d'abord pour nous conduire vers une analogie qui provient de l'art, ce qui, je crois, est très important. Le mystère de la création doit se comprendre plus à partir d'une analogie de l'activité artistique que de la connaissance scientifique ou spéculative, puisque c'est un facere de Dieu, c'est Dieu qui réalise une œuvre. Donc il y a une certaine analogie que l'écriture elle-même nous montre, qui est l'analogie de l'artiste, de l'artisan, avec la seule différence, c'est que lorsqu'il s'agit de la création comme telle, Dieu crée à partir de rien, puisque la matière vient elle-même de Dieu. L'argile du potier, cette fois-là, vient du potier. Elle vient de Dieu. Mais évidemment, il y aurait quelque chose d'important à souligner, c'est qu'il semblerait qu'il y a bien deux aspects différents pour le regard de Dieu sur l'homme, le point de vue du corps et le point de vue de l'âme. Il insuffla un souffle de vie. Et le corps, l'analogie du potier, comme si justement il y avait quelque chose qui était antérieur à l'âme. Toute la grande question de savoir à quel moment l'âme est infusée dans le corps. Très curieux quand je regarde cette analogie. J'essaie de la comprendre. Elle est évidemment symbolique. Elle est poétique. Mais c'est quand même la révélation qui nous donne ce symbolisme. Et à ce point de vue-là, c'est intéressant. Il y a quelque chose qu'on devra essayer de retenir. C'est donc les analogies plus du côté de l'activité artistique que nous devrions prendre pour essayer d'éclairer ce grand mystère de la création, de l'âme et du corps, création de l'homme. Deuxièmement, si Dieu nous montre la noblesse du corps, nous voyons le péché et la manière dont la tradition et l'Église précisent que le péché originel se transmet par la voie du corps. Formation du corps. Par l'origine. Parce qu'évidemment, Dieu ne peut pas créer une âme pécheresse. C'est impossible. Dieu ne peut pas créer le péché. Alors, parler d'un péché qui est dès la naissance, dès la conception, péché ne peut atteindre l'âme que par cette voie matérielle du corps. Et c'est ce que, de fait, beaucoup de pères de l'Église, saint Thomas a précisé avec beaucoup de force, et que nous retrouvons dans le Concile de Trente. C'est très difficile de trouver une autre explication. En maintenant le réalisme du péché originel, on essaie. Ça, c'est évident qu'il y a des essais multiples dans ce domaine-là. Bon, ce qui m'intéresse ici, parce que je ne veux pas faire une conférence sur le péché originel, ce qui m'intéresse ici, c'est de voir que l'Église, du moins la révélation, montre la noblesse du corps. Puisque Dieu veut ce corps. Il provient de Dieu. Peut-être d'une manière moins immédiate que l'âme, mais il provient de Dieu. Là, on écarte toute vision manichéenne en disant que le corps est mauvais, que le sensible est mauvais. Alors, l'objection qui est posée, c'est de dire, mais si vous dites que, par le péché, que le péché originel se transmet par la voie de propagation, donc du corps, est-ce que ce n'est pas réintroduire le point de vue du manichéisme? Par le corps se transmet la faute. J'ai dit non. Parce que le manichéisme considère que la matière en soi est mauvaise, que le corps en soi est mauvais. Tandis que dans cette position traditionnelle que l'Église, au Concile de Trente, nous a donnée, l'Église maintient le péché originel. L'Église invite les théologiens à chercher. Mais l'Église maintient le péché originel. Il ne faut pas dire que ça a été supprimé. Mais l'Église laisse une recherche aux théologiens pour essayer de voir si on peut exprimer le péché originel d'une façon qui soit plus proche de la mentalité des hommes d'aujourd'hui. Est-ce que la science peut nous dire quelque chose? La théorie de l'Église, du moins l'enseignement de l'Église au Concile de Trente, ce n'est pas du tout réintroduire du manichéisme. C'est montrer que le péché, le premier péché, ayant coupé par l'orgueil, l'homme de sa source divine, de la grâce. La grâce étant supprimée, immédiatement, la conséquence de ce premier péché, c'est d'introduire une sorte de déséquilibre entre le point de vue des forces spirituelles qui était assumé par la grâce. Et comme la grâce vous a dit, comme le péché a détourné de la vraie finalité, il y a eu forcément du côté spirituel en Adam et Ève une conversion vers le sensible. Il y a un déséquilibre qui s'est introduit dans cet état de nature. La nature humaine reste la même, mais dans l'état de nature, il y a un certain déséquilibre qui s'est introduit. Et ce déséquilibre, ainsi que la faute, touche l'âme, se transmet par la génération. Tout tous les descendants d'Adam et Ève. Et se transmet par le corps, par le fait même, puisque l'âme est créée directement par Dieu. Et que l'âme ne pourrait pas, étant créée directement par Dieu, être atteinte directement par elle-même, par ce péché. Mais le péché originel, ce péché fondamental, qu'on dit péché de nature, c'est-à-dire un péché qui touche tous les descendants d'Adam et Ève, ce péché infecte l'âme spirituelle. Il la met dans un état d'opposition vis-à-vis de Dieu. Et cette infection, ce fomes peccati, pour employer l'expression consacrée, ce fomes peccati atteint l'âme par le corps. C'est un mystère. On essaie de sauvegarder deux choses. Comme toujours, quand le théologien essaie d'une explication, sauvegarder ce qui est révélé. L'âme est créée directement par Dieu. Si l'âme est créée directement par Dieu, elle ne peut pas être par elle-même infectée du péché. Elle ne peut l'être qu'au moment où elle informe le corps. Créée dans le corps, elle informe le corps. C'est du fait même qu'elle informe le corps qu'elle est contaminée. Mais voyez tout de suite la très grosse difficulté. C'est que le péché n'est pas au sens précis dans l'âme en tant qu'elle informe le corps. Le péché est dans l'âme spirituelle. Alors on dira, mais peut-être l'âme informe le corps à cause et conséquence du péché d'une manière moins parfaite et donc laisse un certain déséquilibre et affaiblit nos forces. Mais on ne voit pas comment l'âme spirituelle peut être touchée par le corps. Puisque par définition, l'âme spirituelle est au-delà. N'oublions pas qu'il y a une unité substantielle de l'âme. Et donc, par le corps, comme une sorte d'instrument, l'âme spirituelle peut être atteinte. Et pour cela, pour que cette explication ait une signification pour notre intelligence humaine, comprendre que Dieu a donné à Adam et à Ève un rôle capital, un rôle de tête et de responsable de toute l'humanité. Autrement, c'est absolument incompréhensible. Et vous voyez, la très grosse difficulté, c'est que si on regarde la création de l'âme, la création d'Adam et Ève, dans une perspective de l'évolution, à ce moment-là, Adam est encore très proche de l'animal, même si Dieu lui a créé une âme. On ne voit pas comment il peut être responsable de toute l'humanité. Sauf évidemment s'il reçoit une grâce charismatique, étonnante. Rien n'est impossible à Dieu. Mais alors il y a une disproportion très grande entre le corps et l'âme. Puisque de fait, la science voit de plus en plus la diversité morphologique et au point de vue du sang entre l'animal le plus évolué et l'homme. Et il y a deux recherches qui semblent se contrarier, c'est du reste très intéressant. Il y a peut-être, oui, je crois qu'à peu près 50 ans, on espérait pouvoir se faire des réserves de sang en élevant des animaux très supérieurs. Mais il n'y aurait plus besoin de don du sang. On aurait des réserves animales. Il y a des choses qui ont été écrites là-dessus. Je les ai lues. Et actuellement, on écarte ça complètement. On voit que le sang de l'homme, c'est du reste très intéressant, a quelque chose de spécifiquement unique. Il y a une variété des sangs, puisqu'on sait très bien qu'il y a des sangs qui ne doivent pas se mêler avec d'autres sangs. Mais le sang de l'homme, qui est lié au corps, après tout, ça fait partie du corps, le sang, du corps vivant. Je voulais en parler de façon spéciale, parce que c'est quand même très, très significatif. Le sang de l'homme a quelque chose de très unique. Et cette affirmation de l'écriture, là, elle est dans le sang, tu vois. Ce n'est pas rien, ça. C'est quand même quelque chose d'assez spécial, ce qui montre que l'influence de l'âme humaine sur le corps a peut-être le maximum d'influence sur le sang. Ce qui ne m'étonnerait pas. Ce serait le sang qui serait le plus marqué, en quelque sorte, par l'information de l'âme. Pas immédiatement, oui, bien l'aspect substantiel de l'âme. C'est peut-être à travers le sang. Là encore, je pose une question. Ça n'a pas été du tout traité, cette question-là. On a regardé uniquement les connaissances scientifiques sur le sang. On a fait des progrès énormes sur la connaissance du sang. Mais voyez, d'une façon, analyse scientifique. Les composés, mais pas le sang de l'homme. C'est le corps de l'homme. Alors, voir la diversité d'autant plus grande du sang de l'animal et du sang de l'homme me semble extrêmement intéressante. Parce que ça montre qu'il y a une harmonie. Le corps humain est capable de recevoir l'âme. Et une âme spirituelle, et une âme qui l'informe. Entre le corps et l'âme, il y a un ordre. L'âme humaine ne peut pas informer n'importe quel corps. Il y a une harmonie. Et la disposition ultime de cette harmonie semble bien la question du sang. Là que je pourrais comprendre comment cette unité substantielle de l'âme et du corps se réalisant à travers des dispositions se réalise à travers le sang. Et comment alors le corps, d'une manière instrumentale, va transmettre à l'âme spirituelle ce fameux peccati. Et ceci ne peut se comprendre qu'en raison d'un ordre de sagesse de Dieu. C'est ça, je crois, très important à noter aujourd'hui. C'est un ordre de sagesse de Dieu. Dieu a voulu qu'Adam joue ce rôle. Et ça, je ne peux pas le détecter scientifiquement ni philosophiquement. C'est vraiment la foi qui me dit ça. C'est la foi seule qui me montre ce rôle particulier d'Adam. D'où le quelqu'un qui ait une autorité nouvelle sur toute la race humaine, une autorité royale sur toute la race humaine, pour pouvoir porter l'iniquité du monde. Mais alors, voyez la différence, c'est que le premier Adam a une autorité sur la transmission de l'espèce, la transmission de la nature humaine. Tandis que le nouvel Adam, Jésus, a une autorité divine. Adam demeure toujours le premier prince de l'humanité. C'est pour ça qu'Adam n'a de signification propre que pour le croyant. Le savant ne peut pas savoir ce que c'est qu'Adam, puisque Adam est lié à ce regard de Dieu sur le premier, sur le chef. C'est pour ça que je dis, ça dépend de la sagesse de Dieu. Ce n'est pas réintroduire le manichéisme, parce que c'est tout à fait différent. On respecte la nature humaine qui est bonne en soi. Le corps est bon en lui-même, mais il peut être instrument qui transmet ce désordre premier, conséquence du péché. Encore une fois, dites-vous bien que c'est un des problèmes théologiques les plus difficiles aujourd'hui. Alors, je le mentionne puisque nous essayons de comprendre le corps dans la vue de Dieu. Et que le corps dans la vue de Dieu, il faut bien le reconnaître. Il est là, instrument de bien, instrument aussi de péché. C'est du reste très intéressant à voir ça. Parce que de fait, c'est bien ce qu'on voit comme conséquence du péché originel. Cette concupiscence charnelle, cette concupiscence des yeux, cette concupiscence de la vie. Et ça provient de l'exaltation du corps. Dieu nous donne un sens de la noblesse du corps. Et le démon va essayer de s'en servir du corps pour nous détourner de notre fin spirituelle. Alors dans cette vision, le corps deviendra un lieu de lutte et de drame au niveau charnel, concupiscence de la chair, au niveau psychique, concupiscence des yeux, au niveau de l'intelligence, dans le dépassement, concupiscence de la vie, l'orgueil. Et c'est cette sorte d'exaltation alors de la chair, où les plaisirs de la chair, de la concupiscence charnelle, du boire, du manger, l'alcoolisme, cette pente vers la jouissance immédiate. Parce que c'est ça que donne le corps. C'est la jouissance immédiate. Alors, la jouissance immédiate, ce qu'on veut tout de suite. Les joies spirituelles, hein, c'est plus lent. Tandis que cette propension vers le charnel, conséquence du péché originel, fait qu'on veut exalter le corps, l'instinct du boire et du manger, pour demeurer dans cette exaltation. Et on verrait la même chose dans le point de vue des jouissances charnelles, sexuelles, immédiates. Vous verriez la même chose dans la drogue, alors avec ce côté plus imaginatif, ce qui est un danger très grand, puisque d'une certaine manière, c'est infini. Mais du côté du boire et du manger, et même du point de vue sexuel, c'est plus terminé, c'est plus limité. Ce qui est tout à fait effrayant dans la drogue, c'est qu'il y a quelque chose qui semble vers l'infini, parce que c'est beaucoup plus imaginatif. Ça libère l'imagination. Tu vois, fausse libération, mais ça libère l'imagination pour qu'elle se développe au-delà, dans un domaine tout à fait séparé. Et l'exaltation de l'intelligence dans l'orgueil provient encore du corps. Puisque vous savez bien qu'on peut regarder le développement de l'intelligence ou d'une manière purement vitale. Alors c'est l'exercice. C'est l'aspect dialectique, ce développement dialectique infini, imaginatif. Ça peut se développer à l'infini. On peut regarder l'intelligence dans son point de vue de sa spécification. Elle atteint la réalité. Alors la réalité devient la mesure de l'intelligence. Et par là, l'intelligence découvre sa fin. Qu'elle le peut, être le premier présent au plus intime de toute sa vie. Il peut y avoir cet effort de contemplation. Ça, c'est une intelligence réaliste. Tandis que l'intelligence, si elle se replie sur elle-même, et c'est ce qu'elle fait dans l'orgueil, parce qu'elle s'exalte, effectivement. Elle se replie sur elle-même et elle jouit de sa propre supériorité. Je suis plus intelligent que tous ceux qui sont autour de moi. Et j'aime de le manifester. Et j'aime de le vivre. Vous voyez, il y a un repliement sur soi. Alors le repliement sur soi, sur l'intelligence, c'est toujours du côté de l'exercice. L'intelligence peut se replier sur elle-même du côté de l'exercice, se s'émovérer de l'intelligence. L'intelligence se meut, se développe elle-même, dans un mouvement dialectique qui n'a pas de fin. L'intelligence de plus en plus tend vers cette exaltation d'elle-même. Et on s'arrête à cette exaltation et on l'aime. Et on la regarde comme étant supérieure à tout. Donc, vous voyez que par le corps, alors le s'émovérer de l'intelligence et l'exercice de l'intelligence est toujours lié à l'imagination. Puisque je ne peux pas penser sans image. C'est le caractère objectif de l'intelligence qui la libère de l'image par la signification. Tandis qu'au contraire, si l'intelligence se replie sur elle-même dans son exercice, l'intelligence alors peut connaître comme une sorte d'exaltation infinie. Jamais dans le réalisme et la contemplation. Parce qu'elle se soumet au réel. De l'autre côté, elle ne se soumet à personne. Puisqu'elle se replie sur elle-même dans son propre développement. Et dans ce propre développement, elle voit qu'elle est ouverte à l'infini. Donc, c'est toujours une intelligence ou une sensation, mais toujours un peu liée à l'intelligence et à la volonté. C'est toujours dans ce repliement sur le corps qu'on peut découvrir les conséquences du péché. Mais cette propension à ce repliement, à cet aspect de subjectivité et d'exaltation du corps. Et par le fait même d'être en état d'opposition vis-à-vis de cette découverte de l'objet. Je vous disais hier,
heureuse faute qui nous a valu un tel sauveur. Si je regarde ces deux premiers moments de la mort du corps révélé avant la faute, la noblesse, après la faute, l'état de corruptibilité, l'état de corruption, l'état de désagrégation, ces trois propensions qui, psychologiquement, nous marquent très fortement. Trois conséquences du péché que nous devons découvrir. Cependant, immédiatement après la faute, Dieu dit qu'il n'abandonne pas l'homme et qu'il le sauvera. Ce salut s'est fait progressivement et le corps par où le péché a été transmis mais qui garde toute cette dignité humaine. L'Église a condamné les positions de ceux qui disaient que la nature humaine, à cause du péché originel, était... manichéenne. L'Église a condamné ça. Et l'Église maintient toujours que le corps, malgré le péché originel, garde sa dignité de corps humain, et donc qu'il est bon. Et que le sensible comme tel n'est pas mauvais par lui-même. Il est bon. Que les passions en soi ne sont pas mauvaises, mais elles réclament d'être assumées, dépassées, purifiées. Que l'instinct en lui-même n'est pas mauvais, l'appétit naturel, mais qu'il demande d'être purifié. Et c'est par le mystère de l'incarnation, par le mystère de la rédemption, donc d'une incarnation ordonnée à la rédemption, que se fait le salut de l'homme. Et là, nous découvrons quelque chose de tout à fait nouveau par rapport au corps. Et ça, je crois que c'est très important pour nous de bien saisir ça. Alors, en premier lieu, regardez comment le mystère de l'incarnation s'est réalisé en Marie par l'opération de l'Esprit Saint. C'est extraordinaire de voir que l'Esprit Saint en Marie forme le corps du Fils de Dieu. Vous voyez, pour que nous comprenions cette nouvelle noblesse du corps. Parce que plus on comprend cette noblesse du corps, plus on le respecte. Plus on peut comprendre comment le corps peut être le temple de l'Esprit Saint. Plus on peut comprendre comment la grâce chrétienne provenant de l'incarnation va réclamer une coopération très spéciale du corps. Plus que dans la grâce de justice originelle. Le corps va être plus engagé dans le salut, le corps humain va être plus engagé dans le salut que dans le premier regard de Dieu en sagesse. justice originelle. Et pour cela, pour comprendre ça, il faut regarder le mystère de la rédemption. Il est évident, au point de vue théologique, que Jésus aurait pu nous sauver uniquement par un acte intérieur, une adoration qui aurait pu être une adoration réparatrice, comme on dit, une adoration qui aurait réparé pour tous les hommes, pour l'orgueil de l'homme, pour la vanité de l'homme, pour toutes les concupiscences de l'homme, et pour le premier péché de désobéissance et d'orgueil. Un acte intérieur du Christ, le mystère de l'incarnation, permettait à l'humanité sainte du Christ de nous sauver dans une pure intériorité. Qui aurait pu très bien dire, je vois que c'est trop difficile de réaliser un chef-d'œuvre dans l'union de l'esprit et de la matière. C'est trop difficile. J'ai cru que l'homme tiendrait bon. Hein, c'est une hypothèse que je fais, hein, c'est pas ça du tout. Alors, on va pas recommencer. Ce qui est extraordinaire, et ça, c'est tout le mystère de la rédemption, c'est que Dieu continue de regarder, j'allais dire, avec un redoublement d'amour, son chef-d'œuvre, l'union de l'âme et du corps. Et quand je dis il regarde dans un redoublement d'amour, c'est de voir que, à travers le mystère de l'incarnation et le mystère de la rédemption, le corps va jouer un rôle si important, si capital, si essentiel. Ça, c'est bouleversant. Ce corps qui te fesse devient instrument de péché, va devenir, par le mystère de l'incarnation, instrument de grâce et d'amour. Instrument de salut. Mais il faut que ce corps soit labouré par la souffrance. Alors là, vous retrouvez ce mystère de la souffrance qui permet au corps de l'homme dans le mystère de Jésus d'être instrument de grâce. Alors, essayons de saisir ça, parce que ça, c'est important pour nous. Et on en voit tout de suite les conséquences dans le fait que Jésus veut réaliser son testament d'amour par l'Eucharistie, le corps et le sang. Il a voulu cela. Il a voulu le sacrement du corps et du sang. C'est quand même très extraordinaire. Le corps et le sang donnés comme nourriture divine. C'est l'ultime réponse. Alors, comprenons que dans le mystère de l'incarnation, l'humanité sainte du Christ et son corps implique une œuvre commune de Marie et de l'Esprit-Saint. Formation miraculeuse par l'intervention de l'Esprit-Saint, par la toute-puissance de l'Esprit-Saint. Formation du corps du Christ en Marie, en se servant de Marie pour qu'elle soit mère. Marie était mère Dieu. Voyez la médiation du corps dans la maternité divine de Marie. Elle est celle qui est le tabernacle divin dans laquelle s'est réalisé, ou le temple divin dans lequel s'est réalisée cette union si merveilleuse de l'Esprit Saint et de sa petite créature, de cette mère, formée en elle le corps du Christ. On est en présence là de quelque chose de tout à fait unique. Et qui reste cependant en dépendance d'Adam. C'est pas un nouveau corps créé par Dieu et qui serait venu dans notre univers. L'Esprit Saint a voulu, Dieu dans sa sagesse a voulu, que le corps du Christ soit relié à toute l'humanité. Et cependant, que ce corps soit formé miraculeusement dans l'intervention de l'Esprit Saint, de la fécondation en Marie, la conception. Et dans ce corps, la très sainte Trinité a créé une âme humaine qui a informé ce corps. Et cette âme humaine, informant le corps, subsiste dans le Verbe de Dieu. Vous voyez comment le corps, par l'âme, subsiste dans le Verbe de Dieu, subsiste en Dieu, et divin. La matière du corps du Christ, semblable à la nôtre, semblable à tout le cosmos, dans le corps du Christ, est divine. Elle est Dieu, introduite dans ce qui est de plus intime dans le mystère de Dieu, par la personne du Verbe. Et comment la création, dans ce qu'elle a de plus élevé et d'ultime, qu'est la création de l'homme et de la femme, par le corps du Christ, s'achève en Dieu. Le nom de l'homme s'achève en Dieu. L'homme s'achève en Dieu par le mystère de l'incarnation. Il garde son caractère d'homme, mais cet homme est porté par Dieu, directement, personnellement, dans une alliance unique. C'est Dieu qui est présent en lui. C'est vraiment l'humanité qui s'achève en Dieu, et qui s'achève de la manière la plus royale qui soit, la plus absolue qui soit. Et cette humanité qui subsiste dans le Verbe de Dieu, cette humanité, par la grâce qu'il reçoit de son union personnelle avec le Verbe, cette humanité connaît une plénitude de grâce dans son âme et le rajeunissement dans son corps. Normalement, le corps du Christ, comme son âme, aurait dû connaître tout de suite la gloire, être dans l'état d'un corps glorieux, puisque la grâce du Christ est plénière. Et Dieu
tu as voulu que l'humanité du Christ connaisse d'abord tout le développement d'une nature humaine normale et que le Christ connaisse la capacité de souffrir. Et donc, son corps n'est pas glorifié, son corps n'est pas exalté, son corps est dans la condition de tous les autres corps humains, pèlerins sur la terre, capables de souffrir, capables de mourir. Et il y a dans son psychisme humain qui est porté par le Verbe de Dieu, donc qui est aussi divin, la capacité de tristesse et de souffrance. Et ceci selon une volonté expresse de Dieu, puisque le mystère de l'incarnation est en vue de la rédemption. Et que la rédemption se réalise par la croix, où Dieu se sert et Jésus, faisant cette œuvre commune avec le Père, se sert du corps pour être offert en holocauste. L'agneau immolé. Donc, c'est l'amour divin qui va se servir du corps dans l'holocauste de la croix pour manifester de manière visible l'exigence propre de l'amour du Père à l'égard de son Fils. Et l'amour du Fils à l'égard du Père. Et l'amour de Jésus pour Marie et pour tous les hommes. Le corps devient le lieu de l'Holocauste. Les corps broyés, offerts en Holocauste. Le Père le livre en quelque sorte. Permet que les bourreaux s'acharnent contre le corps de Jésus. Permet cette souffrance de la flagellation et de la crucifixion. Et Jésus assume dans son amour cela. Et le corps devient le lieu de la réconciliation. Le lieu de l'unité d'amour entre le Père, Dieu, le Fils bien-aimé et tous les hommes. Corps crucifié du Christ étant vraiment l'holocauste d'amour. À la fois réalise d'une manière concrète l'offrande totale que Jésus fait de lui-même à son Père pour le glorifier et nous sauver, et manifeste cette offrande. Le corps devient la manifestation visible de ce lien d'amour de l'âme de Jésus avec son Père bien-aimé, avec Marie et avec toute l'humanité, chacun d'entre nous. C'est une dimension toute nouvelle du corps humain. Le corps représentation des anges créés, son chef-d'œuvre, dans l'homme et la femme, l'union d'une âme spirituelle avec un corps physique. Ça, c'est la première vision qui demeure, même après le péché. Mais à travers la croix du Christ, il y a un nouveau regard de Dieu sur le corps qui devient le moyen d'exprimer le plus grand amour à l'égard de Dieu et à l'égard des hommes dans l'holocauste du corps, dans le martyr, si vous voulez, le martyr sanglant. Séparation du corps et du sang, le sang versé. C'est ce qu'il y a de plus intime dans le cœur de Jésus qui se manifeste de cette manière, à travers son corps, victime d'amour, à travers la blessure du cœur. Et d'une façon ultime, c'est la blessure du cœur. Cette manifestation et cette réalisation prend son sommet dans la blessure du cœur. Le cœur du Christ devient choisi par Dieu comme le lieu de la réalisation de son offrande totale au Père et de son don total aux hommes de ce salut. On pourrait regarder à travers Marie et dans Marie comment Dieu, dans sa sagesse, donne à la femme ce rôle très particulier, sa consécration à Dieu, sa maternité à l'égard du Fils, cette maternité à l'égard de tous les hommes. Voyez, le mystère de la fécondité première selon la chair et le sang est reprise dans le mystère de l'Holocauste du Christ pour être une fécondité divine de surabondance d'amour et de communication de la vie divine, et en même temps un mystère, le lieu de la réparation. Le corps est offert comme victime, victime d'holocauste, d'adoration et de réparation, victime de, qui réalise la réconciliation et la paix, et en même temps la manifestation. Ce qui est vrai de Jésus est vrai de Marie, d'une manière analogique, d'une manière secondaire, mais réelle aussi. Le corps de Marie a été le lieu de sa consécration totale à Dieu, de son amour pour Joseph, de sa maternité.